Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présentons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى
وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Par la nuit, quand elle enveloppe, et par le jour, quand il éclaire, et par ce qu'il a créé mâle et femelle. Certes, oui, vos efforts sont divergents. Puis, quant à celui qui fait largesse et se comporte en piété et confirme la plus belle des choses, alors nous lui faciliterons la plus grande facilité. Et quant à celui qui est avare et cherche à se mettre au large et traite de mensonge la plus belle des choses, alors nous lui faciliterons la plus grande difficulté. Une fois perdu, cependant, ses richesses ne le mettront pas au large.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 6 Aban, 1402 du calendrier iranien, 28 octobre 2023. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies appelle à une trêve immédiate à Gaza. Le chef de la diplomatie iranienne discute avec le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies des développements en Palestine et à Gaza. Le bilan des victimes de l'agression israélienne à Gaza dépasse les 7700. Et l'armée de terre iranienne lance des exercices militaires à grande échelle. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. L'Iran affirme que le soutien des États-Unis et le silence d'un certain nombre de pays ont enhardi Israël dans l'intensification des attaques contre les civils à Gaza et en Cisjordanie occupée. Lors d'une réunion avec le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à New York, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a appelé la communauté internationale à prendre des mesures immédiates et décisives pour mettre fin au génocide à Gaza. Les crimes israéliens pourraient conduire à l'ouverture de nouveaux fronts contre le régime sioniste, a averti le haut diplomate iranien. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a également qualifié de catastrophique la situation humanitaire actuelle à Gaza. Antonio Guterres a exhorté toutes les parties à agir pour un cessez-le-feu immédiat et le transfert de l'aide humanitaire à l'intérieur de l'enclave palestinienne. Les frappes aériennes israéliennes sont devenues monnaie courante à Gaza et les images de bâtiments bombardés continuent à venir de la bande assiégée. Le régime sioniste a intensifié ses attaques avec des missiles et de l'artillerie. Selon la défense civile de Gaza, les frappes israéliennes, pendant la nuit, ont démoli des centaines de bâtiments. Il affirme que les attaques ont anéanti le paysage du nord de Gaza. Pendant ce temps, le régime sioniste prétend que ses troupes sont toujours sur le terrain à Gaza après avoir effectué des incursions vendredi. La branche militaire du mouvement de résistance palestinien Hamas affirme que ses combattants affrontent les forces israéliennes dans deux zones de Gaza. La guerre d'Israël en est maintenant à son 22e jour. Plus de 7700 Palestiniens ont été tués jusqu'à présent. Des milliers d'entre eux sont des enfants et des femmes. Israël continue également de couper l'accès des Gazaouis au monde extérieur en fermant les lignes Internet et de télécommunications. Les États-Unis avancent avoir lancé des frappes aériennes dans l'est de la Syrie contre deux installations liées au corps des gardiens de la révolution islamique. Un haut responsable américain de la défense a déclaré que les frappes avaient eu lieu près de la ville d'Abu Kamal, près de l'Irak, à l'aide de deux avions F-16. Dans une remarque distincte, le secrétaire de la défense Lloyd Austin a déclaré que ces frappes étaient une réponse aux attaques menées la semaine dernière par des groupes soutenus par l'Iran contre les forces américaines en Irak et en Syrie. Austin a déclaré que les États-Unis prendraient des mesures supplémentaires si les attaques se poursuivaient. Téhéran n'a pas encore commenté les frappes aériennes du Pentagone, mais les groupes de résistance en Irak avaient déjà averti qu'il ciblerait les intérêts américains dans la région si les crimes du régime sioniste se poursuivaient contre les Palestiniens de Gaza. Les forces terrestres de l'armée iranienne ont lancé un exercice militaire de 2 jours dans la province centrale d'Isfahan. Les exercices ont été supervisés par le commandant en chef de l'armée iranienne, le général Seyed Abdelrahim Mousavi. Diverses unités de l'armée participent aux manœuvres. Ils comprennent des unités d'infanterie, de blindés, de missiles, d'artillerie, d'aviation, de drones, d'ingénierie, ainsi que des unités de guerre électronique moderne et de cyberguerre. Les exercices militaires visent à améliorer le pouvoir de dissuasion de l'Iran face aux nouvelles menaces et à évaluer les capacités de combat des unités participantes. L'examen de différentes tactiques pour les batailles au sol fait également partie des objectifs de ces exercices. Les forces militaires iraniennes organisent des exercices de routine selon un calendrier détaillé dans diverses régions du pays afin de tester leurs armes et équipements et d'évaluer aussi leur préparation au combat. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies a adopté à une écrasante majorité une résolution appelant à la mise en œuvre immédiate d'une trêve humanitaire dans la bande de Gaza, qui est la cible d'une guerre implacable et dévastatrice de la part du régime israélien depuis 3 semaines. La résolution non contraignante exige une trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue. Le commentaire politique d'aujourd'hui a été consacré à ce sujet. Et enfin, le mouvement de résistance libanais Hezbollah a annoncé que ses combattants ont attaqué 2 bases militaires israéliennes à la frontière du Liban. Le Hezbollah a annoncé vendredi que ses combattants ont visé un poste de l'armée israélienne à la frontière du Liban. Vendredi, le poste militaire d'Abu Dajjaj a été attaqué et une partie de son équipement technique a été détruite. 1 heure auparavant, c'est le poste militaire d'Al-Sada qui a été visé par des missiles guidés et d'autres armes. Une grande partie des installations et de leurs équipements ont été endommagées. L'attaque a fait aussi des blessés. Les médias militaires du Hezbollah ont publié 4 déclarations successives pour clarifier les détails des attaques contre les postes frontières du régime sioniste. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies a adopté à une écrasante majorité une résolution appelant à la mise en œuvre immédiate d'une trêve humanitaire dans la bande de Gaza, qui est la cible d'une guerre implacable et dévastatrice de la part du régime israélien depuis 3 semaines. Vendredi 27 octobre, l'Assemblée générale des Nations unies a voté en faveur de la résolution rédigée par les États arabes avec 120 voix pour, tandis que 45 pays se sont abstenus et 14, dont Israël et les États-Unis, ont voté contre. Il a adopté des appels à une trêve humanitaire immédiate, durable et soutenu conduisant à une cessation des hostilités. Le régime sioniste mène la guerre contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre, lorsque le Hamas et son homologue du djihad islamique, mouvement de résistance basé à Gaza, ont lancé leur plus grande opération contre l'entité occupante de Quds depuis des années. L'offensive surprise palestinienne, baptisée « Opération Tempête d'Al-Aqsa », est intervenue en réponse aux crimes intensifiés du régime sioniste contre le peuple palestinien. Le bilan des morts à Gaza depuis le début de l'agression israélienne s'élève à plus de 7400 morts et 20500 blessés. Le vote de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a eu lieu après que le Conseil de sécurité a échoué à 4 reprises au cours des 2 dernières semaines à prendre des mesures en raison du veto des États-Unis contre les résolutions pertinentes. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a souligné l'importance de prévenir une nouvelle déstabilisation et une escalade de la violence dans la région et a appelé toutes les parties à faire preuve d'un maximum de retenue et à tous ceux qui ont une influence sur elles à travailler vers cet objectif. Et ce, alors qu'Israël a rejeté tous les appels à un cessez-le-feu, affirmant que cela profiterait au Hamas. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a également appelé le régime israélien à annuler l'ordre donné aux civils de Gaza de se déplacer vers le sud de l'enclave. Israël a ordonné à quelque 1,1 million de personnes à Gaza, soit près de la moitié de la population, de se déplacer vers le sud le 12 octobre, alors que le régime sioniste menaçait de lancer une invasion terrestre contre le territoire côtier. Le Hamas et l'autorité autonome palestinienne ont salué la résolution de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies et ont exigé qu'elle soit mise en œuvre immédiatement. Nous exigeons son implication immédiate pour permettre l'entrée du carburant et de l'aide humanitaire aux civils, indique un communiqué du Hamas. Le ministère des Affaires étrangères de l'autorité autonome palestinienne, basée à Ramallah, en Cisjordanie, déclare à son égard que même si la campagne israélienne atteint un nouveau niveau de brutalité, il existe une position internationale forte pour rejeter l'agression aveugle d'Israël. Lors d'une rencontre vendredi soir à New York avec le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le ministre iranien des Affaires étrangères a réitéré le soutien de la République islamique d'Iran au peuple opprimé de la Palestine face aux crimes bestiaux du régime israélien. Hossein Amir Abdollahian, qui s'est rendu à New York pour participer à la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la Palestine, s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, des dernières évolutions au Moyen-Orient et de la situation de la bande de Gaza. La République islamique d'Iran a placé le soutien constant aux luttes libératrices et à la résistance du peuple palestinien pour la pleine réalisation de ses droits humains parmi les principes fondamentaux de sa politique étrangère, a affirmé le chef de la diplomatie iranienne. Téhéran condamne fermement le génocide du peuple palestinien par le régime de Tel Aviv dans la bande de Gaza, où le régime occupant mène une guerre acharnée depuis les trois dernières semaines, a-t-il dénoncé.
Bonjour à tous, bienvenue sur les plateaux de télévision de Presse TV, ici dans la capitale iranienne, Téhéran. Le sujet du jour de notre débat depuis ces 15 jours, et notamment concernant la Palestine, plus de 15 jours d'attaques, plus de 15 jours de tueries, un génocide. Ce sont les termes des experts connaissant bien la situation à Gaza. Je vous propose tout d'abord un reportage qui vous remuera la situation, parlant notamment des États complices du génocide provoqué par l'entité sioniste sur Gaza, mais également sur toute la Palestine, parce qu'on ne parle pas assez également des morts, également en Cisjordanie. Et là, on ne parle pas du Hamas. C'est le sujet de notre débat d'aujourd'hui. Je vous propose donc tout d'abord notre reportage.
Le leader de la révolution islamique d'Iran, l'honorable Ayatollah Ali Khamenei, a déclaré lors d'une rencontre ce mercredi 25 octobre avec des membres du congrès de commémoration des martyrs de la province de Lorestan que les États-Unis sont les complices définitifs des crimes du régime sioniste à Gaza. La présence des dirigeants des pays tyranniques et méchants dans les territoires occupés témoigne de leur inquiétude face à la désintégration et l'effondrement du régime sioniste, a-t-il fait remarquer. Les États islamiques ne devraient pas rester passifs. La victoire définitive appartient à la Palestine, a-t-il affirmé. La population de Gaza est réellement opprimée et cet ennemi impitoyable et sanguinaire, le régime terroriste usurpateur, ne connaît aucune limite à ses crimes. Il tue un millier de personnes en un seul bombardement. Il n'y a pas de limite. Ce peuple est opprimé, mais il y a deux points importants à mentionner. Le premier est la patience dont il fait preuve et le fait qu'il s'appuie sur Dieu. Le deuxième point important est que le coup porté par les attaques des combattants palestiniens contre le régime usurpateur a été un coup décisif. Ils n'avaient jamais subi un tel coup. Comme je l'ai déjà dit, plus le temps passe, plus il est évident que cet échec est irrémédiable. Et de renchérir, les combattants palestiniens ont gardé leur esprit, sont restés motivés et se sont montrés capables et prêts à agir. Et si Dieu le veut, il en sera désormais de même. Et le régime usurpateur se venge de la population sans défense de Gaza en raison de son incapacité à faire face à la résistance. Qualifiant Washington de complice définitif des criminels sionistes, l'ayatollah Khamenei a noté « Les mains des Américains sont tachées du sang des enfants, des femmes et d'autres martyrs de Gaza. En réalité, ce sont les Américains qui gèrent d'une manière ou d'une autre les crimes commis à Gaza. »
Alors, c'est bien la responsabilité des États autres que l'État sioniste qui est visé dans ce débat d'aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons faire venir donc nos deux invités, les présenter. Si vous ne les connaissez pas, nous avons d'abord Madame Midani, notamment expert des questions syro-françaises. Bonjour Madame Midani, bienvenue parmi nous aujourd'hui à Presse TV dans le débat.
Bonjour à vous, bonjour à votre invité, bonjour à toute l'équipe Presse TV et merci de votre invitation. Surtout, bonjour à tous les téléspectateurs aussi.
Merci Madame Midani. Alors, deuxième invité, vous la connaissez ou pas encore, le professeur Madame Obola, présent sur Beyrouth, bien au courant de la situation palestinienne, au vu notamment de la situation elle-même libanaise. Bonjour professeur Obola.
Alors bonjour et merci pour m'avoir invité à votre plateau et je salue votre invité ainsi que tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Presse TV.
Merci, Madame Professeur Obola. Alors, professeur, je vais commencer par vous. Sachant la situation à l'actuelle de la Palestine, notamment de Gaza, mais on n'oublie pas la Cisjordanie qui est touchée toujours par des morts également. Donc, pour Gaza, le leader de la révolution islamique a bien indiqué que finalement les États complices sont bien visibles du fait notamment de leur veto lors des assemblées extraordinaires qui sont passées à l'ONU. Il y a un véritable blocage politique et géopolitique de la part d'une partie du continent, alors qu'on va dire que 70% du reste du monde souhaite la fin de ce conflit, souhaite la fin de ce génocide.
Alors d'abord, souhaite la fin de ce conflit, cela suppose qu'il y a des belligérants. Alors là, on n'est pas dans un conflit, on est devant un massacre. Il n'y a pas de troupes ou forces qui sont en train de se battre proprement dit sur le terrain. On a des avions, on a une machine de guerre israélienne qui est en train de massacrer tous les jours des femmes et des enfants. Toutes les 15 minutes, il y a un enfant qui meurt. Donc, elle est où cette bataille, premièrement? Le jour où ils décideront, et là je doute fort, de déclencher une incursion terrestre, alors là on va commencer à compter et à parler véritablement de bataille. Concernant la responsabilité de la communauté internationale occidentale, parce qu'il faut bien préciser, pas tout le monde, cela n'est pas nouveau. Ce n'est pas la première fois depuis la création de l'entité sioniste que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne ont toujours soutenu l'entité sioniste. Et je rappelle que le premier médiateur onusien qui a été nommé au lendemain de la création de l'ONU, c'est-à-dire au lendemain de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où la communauté internationale est censée être culpabilisée, a retenu les leçons de l'atrocité de la Deuxième Guerre mondiale, et ben non. Puisque cet émissaire qui était venu en 1949 et qui est le comte Bernadotte en Palestine occupée pour justement proposer et tenter d'imposer la solution de deux États palestiniens, sachant qu'il était marié à une juive, sachant que durant la Deuxième Guerre mondiale, il a libéré plus de 17 000 juifs des camps de concentration nazis, malgré cela, il a été assassiné par les Israéliens, par un groupe terroriste. Et comment a réagi la communauté internationale? Rien. Donc depuis ce jour, et on assiste à une oppression sans précédent, une injustice vis-à-vis d'un peuple, qui est le peuple palestinien, à savoir on lui a volé ses terres. Et aujourd'hui, on victimise, ou plutôt l'entité sioniste se victimise en disant comment ils ont osé nous attaquer. Mais ce sont eux les propriétaires de cette terre. Ils ont le droit de se défendre. Et en plus, après des dizaines d'années d'embargo sur la bande de Gaza, qui n'est autre qu'un immense camp de concentration, et donc toute cette guerre contre ce peuple palestinien ne peut que se terminer par, à mon avis, soit une guerre totale, soit il faudrait que qu'il y ait une pression de la part des États-Unis sur l'entité sioniste pour qu'ils acceptent les deux États. Et cela ne se passera jamais pour la simple raison que ce qui s'est passé le jour du 8 octobre est différent de toutes les autres guerres, de toutes les autres batailles, pour une seule raison, c'est qu'il y a eu une initiative. C'est l'armée Tsahal, qui veut dire en hébreu l'honneur de la nation juive. Et Tsahal est collé à l'identité sioniste, qui est collé à la représentation géopolitique de l'entité sioniste, qui est de faire un grand projet, qui est le projet du grand Israël. Tout ça a été en 3 heures complètement détruit. Donc, on comprend pourquoi Netanyahu est en train de déclarer que c'est une guerre d'existence, c'est une guerre, non, pas de survie, ce n'est pas une simple bataille, ce n'est pas une guerre de volonté. Nous sommes en train de vivre une guerre des identités entre l'identité palestinienne qui a le droit à cette terre, une terre qui a un peuple et qui a un gouvernement, entre guillemets, un gouvernement qui est l'autorité palestinienne, et un autre qui est venu, qui a volé cette terre.
Alors, donc, Madame Ouboula, je me permets de vous interrompre pour bondir sur ce que vous êtes en train de dire. Alors, je vais renchérir avec notre deuxième invitée, Madame Midani, qui, elle, se trouve en Syrie, qui a également connu, comme vous-même, l'occupation de près, puisque la Syrie, le Golan syrien, est également occupé. Alors, Madame Midani, il y a quand même un aspect qu'on ne parle pas assez, c'est que ces dernières années, contrairement à la situation qui a pu se passer en Irak ou en Syrie, ou les autres génocides du monde entier où ça n'a jamais été documenté d'un point de vue visuel, la Palestine, depuis ces dernières années, on peut parler de ces 10 dernières années, tout est documenté. Il y existe énormément de vidéos de ce qui se passe en Palestine occupée, de ce qui se passe par les faits de cette entité sioniste qui vient prendre, voler les maisons habités des Palestiniens. On a également beaucoup de vidéos où des Français ou des Européens viennent en Palestine occupée voir la situation de leurs propres yeux, parfois chrétiens, parfois juste non-chrétiens, qui étaient même parfois favorables à l'entité sioniste, apprenant qu'il existe des associations de l'entité sioniste pour aider les Palestiniens à finalement récupérer peut-être certains droits d'un point de vue juridique. Donc la documentation est là. Et pourtant, là où on parle d'un état de droit, on parle notamment des pays occidentaux, puisque pour les occidentaux, le droit est la seule chose existante, réelle. Le droit n'est pas respecté, puisqu'il y a eu des traités, hein, on parle notamment du traité d'Oslo. Il y a eu des propos tenus par ce premier ministre, on va dire extrémiste, qu'on présente au niveau des journaux Netanyahou, où il parle très clairement de ce qu'il veut faire des territoires occupés, de ce qu'il veut faire des Palestiniens. Et pourtant, encore une fois, ce sont les pays occidentaux qui ont prôné ces valeurs, on va dire, démocratiques, humaines, qui bloquent toute possibilité d'avancement concernant la situation palestinienne.
Écoutez, je crois que ce n'est pas d'aujourd'hui. Vous parlez seulement de ces dernières années. Il y a eu effectivement peut-être pas mal d'ONG qui sont arrivées en Palestine et qui ont filmé, Mais au-delà des ONG, les responsables occidentaux, comme les journalistes, beaucoup de journalistes occidentaux savent parfaitement que c'est une usurpation de pays depuis le début, de terres, qu'il y a tous les jours des grands crimes de destruction de maisons et poussant les gens à la rue, et pour les pousser à l'exode, pour les pousser à s'exiler ailleurs. Il y a aussi ces mêmes pays occidentaux qui offrent aussi des possibilités de refuge à tous les Palestiniens et qui leur facilitent aussi le fait de quitter le pays. Il y a aussi des crimes quotidiens, pas seulement à Gaza, comme l'a bien précisé Dr Kada, mais dans toute la Palestine. Et aussi, il y a une volonté de pousser l'ensemble des habitants du Golan à aller ailleurs. Alors, je rappelle quand même que le Golan est occupé depuis 1967, que les habitants du Golan aussi résistent et refusent de quitter leurs terres. Et bien, la réponse, c'est toujours la répression, c'est toujours l'horreur, c'est toujours la destruction de leur culture. La destruction de leurs agricultures, c'est aussi effacer cette civilisation qui existe depuis des millénaires, c'est effacer le fait que les Palestiniens sont les propriétaires de la terre, et donc ils le savent en fait. Alors, on revient à ces pays qui soutiennent Israël aujourd'hui. Qui sont-ils? C'est l'Angleterre, la France, les États-Unis, l'Allemagne, tous les pays qui impérialistes qui étaient eux à l'origine de la création de l'État d'Israël. Il faut le rappeler aussi, en 1916, il y a eu la promesse Balfour, c'était aussi promettre aux Juifs un pays d'échange, hein, mais on ne sait pas en échange de quoi. Parce que déjà en 1916, il n'y avait pas ni le nazisme, ni la, la répression des Juifs en Allemagne. Mais aussi, on sait à croire aussi que cette répression des Juifs en Allemagne a été faite pour faciliter le projet sioniste. Et maintenant, de plus en plus, on voit la connivence historique du nazisme avec le sionisme, qui sont d'ailleurs tous les deux contre les Juifs. Et c'est une instrumentalisation des Juifs, leur faisant croire que c'est un pays où ils seront tranquilles, où ils seront seuls. Pourquoi ? Parce que l'antisémitisme, c'est le fruit de l'Occident et de ces pays impérialistes qui sont aussi qui sont très antisémites et ils voulaient se débarrasser des Juifs chez eux. Mais en fait, l'objectif, il n'est ni antisémitisme, ni une question de religion. L'objectif, c'est mettre la main sur la région, avoir que les impérialistes puissent avoir toujours une extension dans la région qui inévitablement va se libérer, même quand elle était sous la domination ottomane et puis la domination anglaise, bref, française, puis américaine, etc. C'est une région qui est très riche en pétrole, c'est une région qui est très riche en terres fertiles. Et elle est aussi très riche en civilisation. Donc, en fait, l'idée, c'est aussi mettre la main sur tout ça et avoir toujours cette extension impérialiste. Aujourd'hui, on voit ce sursaut de l'impérialisme et du sionisme qui est en perte de vitesse, qui s'écroule dans le monde. Les États-Unis, avec la création, l'ébauche du nouveau monde multipolaire, ils sont affolés à l'idée de perdre leur contrôle sur le monde et sur cette région en particulier. Ils ont perdu la guerre en Ukraine. Ils essayent de garder au moins un peu de richesse sur la région au Moyen-Orient et surtout couper aussi le chemin de la route de la soie à la Chine, donc aussi à ce grand projet qui est vraiment fédérateur d'un nouveau monde et fédérateur de tous les pays de l'Asie et de l'Europe.
Merci,
de
Madame Dany.
On peut dire pour un peuple, pour un pays, pour un monde qui est exempt de répression, exempt de domination, d'hégémonisme, où tout le monde se traite en égal, d'égal à égal, où tous les pays ont le même poids et ont le même respect. Alors, la domination aussi, excusez-moi, juste une dernière phrase, juste la domination des États-Unis sur les instances internationales fait que ces instances internationales, l'ONU, trahit elle-même sa propre charte et trahit elle-même ses propres principes en défendant les positions américaines et occidentale.
Merci Madame Idani. Alors Madame Radaobola, professeur Radaobola, alors pour revenir un peu à ce que vous avez dit, il y a donc cette situation décrite par Madame Idani, la trahison des membres de l'ONU fait à la charte elle-même. On a également la situation du fait que finalement plusieurs parlementaires, que ce soit le Congrès américain ou par exemple français, il y a des franco-israéliens ou des américano-israéliens au sein même des structures juridiques, des structures parlementaires de ces pays. Ça, c'est une question qui pourrait former un autre débat. Mais il y a également le fait que la Chine, donc cette semaine, a fait venir ses trois navires dans la région. On voit également les pays arabes être extrêmement discrets et extrêmement prudents dans leur manière de bouger, que ce soit du côté du Liban, que ce soit du côté de la Syrie ou de l'Irak. Vous-même qui êtes là-bas dans la région, comment vous expliquez cette prudence de la part de l'acte de la résistance ?
De la part de la résistance islamique, la prudence dans la gestion de cette bataille, vous voulez
c'est
dire ?
C'est ça, tout à fait.
À commencer déjà par le silence stratégique du secrétaire général du Hezbollah, un silence qui perturbe énormément l'entité sioniste, même les États-Unis, parce qu'ils ont besoin de savoir à travers son discours comment se déroulera cette bataille. Est-ce qu'elle sera ouverte? Est-ce qu'elle restera restreinte dans la frontière sud du Liban avec la Palestine occupée? Jusqu'à maintenant, il y a eu 50 martyrs qui sont tombés du côté libanais au niveau de la résistance islamique. Or, il faut savoir, ce que le Hezbollah est en train de faire, ou la résistance est en train de faire sur la frontière, c'est qu'elle est en train d'ouvrir le feu. Elle a détruit plus de 30 sites militaires de surveillance et d'espionnage. Elle a respecté ce qu'on appelle les règles de l'affrontement ou du conflit, qui étaient instaurées depuis la guerre de 2006, la deuxième guerre israélo-libanaise en 2006. Cette frontière est à une longueur de à peu près 153 km. À peu près, c'est la même frontière qui est entre l'Ukraine et la Russie. Donc, imaginez l'exploit qui est en train de se réaliser au niveau de la frontière sud du Liban, grâce à la résistance islamique, qui est en train de brouiller d'abord les plans de toute incursion terrestre de la part de Netanyahou, puisqu'il y a trois brigades israéliennes qui sont tout le long de cette frontière. Donc, il ne peut pas, et il a été obligé, ce qui a forcé d'ailleurs le Premier ministre Netanyahou de faire venir les réservistes si jamais il voulait faire une incursion terrestre contre la bande de Gaza, d'une part. Et d'autre part, tout le monde, la majorité des scénarios, et moi j'étais en train de suivre vraiment les médias israéliens juste avant cette bataille, à chaque fois qu'on voulait parler de la menace du Hezbollah, de la menace de l'axe de la résistance, on parlait toujours du scénario selon lequel il y aura des milliers de missiles qui tomberaient sur Tel Aviv, qui sera détruite, etc. Or, ce qui les a surpris, c'est que ce n'était pas le cas. En fait, ils s'attendaient à ça, surtout après le massacre d'un des hôpitaux à Gaza, où il y a eu en quelques heures 500 martyrs. Là, ils s'attendaient à ce que, bien entendu, le Hezbollah riposte. Et à ce moment-là, c'est ce que essaie autant que possible de faire le Premier ministre Netanyahou, parce qu'il n'a plus rien à perdre au niveau politique. Et donc, il veut absolument, c'est son rêve depuis des années, il veut absolument entraîner une guerre directe entre l'entité sioniste, entre le Hezbollah et les États-Unis, mais encore mieux entre les États-Unis et directement avec l'Iran. Et donc, cela n'a pas eu lieu. Et ce qui les a encore plus surpris, c'est qu'ils sont en train d'être très, très, très raisonnables. Chaque frappe est calculée. Tout est dirigé de manière très rationnelle. Au lieu d'envoyer ces milliers de missiles, eh ben, au contraire, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait bouger le Yémen, les missiles du Yémen. Et hier, il y a eu deux attaques contre des forces israéliennes en Érythrée, tuant un haut officier. Et là, il y a eu un silence complet jusqu'à ce jour, une censure, silence complet sur cette information qui a été diffusée par la chaîne satellitaire libanaise Al-Mayadeen. Et cette base, c'est une base qui est très importante puisqu'elle abrite la flotte aérienne, la plus importante flotte aérienne de l'entité sioniste. Encore, il y a eu des missiles qui sont tombés à l'intérieur de la zone verte durant la fin de la première semaine. Et on s'en est suivi des missiles aussi qui sont tombés tout le long de la frontière syro-irakienne, là où il y a des bases.
Professeur Obola, malheureusement, on arrive à la fin du débat. Donc, si vous voulez conclure en quelques mots, la question que je vous ai posée, je vous permets de conclure parce que sinon, là, on arrive à la fin de notre débat, malheureusement, et désolé de vous interrompre.
La conclusion, c'est que c'est une guerre qui sera longue, comme l'ont dit l'établissement militaire israélien, mais à laquelle sont préparés, et ils ont déclaré qu'ils étaient prêts, tout l'axe de la résistance.
Merci, Madame Obola.
Et personne ne peut prédire ce qui va se passer.
Merci, professeur Obola. Merci, Madame Midani. Je rappelle le sujet qui était le côté complice des États occidentaux concernant donc le génocide qui se passe actuellement en Palestine et notamment à Gaza. Madame Midani, je vous remercie pour votre expertise. Professeur Obola, de même, merci également pour votre expertise, pour le partage de votre expertise avec la chaîne Presse TV. Ici, chers auditeurs, se finit notre débat du jour qui concernait encore la Palestine. C'est sur notre site que vous pouvez voir les évolutions qui se passent en Palestine, à Gaza, mais également en Cisjordanie. N'hésitez pas à commenter ou à regarder ou revoir nos débats sur notre site internet. Au revoir et à bientôt.
L'inflation va-t-elle continuer à déterminer la politique financière? Lutter contre la flambée des prix en agissant par le biais des taux d'intérêt. Les banques centrales s'y emploient depuis de longs mois. Cet article explique pourquoi la politique monétaire restrictive présente des risques, qui plus est dans l'actuel contexte géopolitique, économique, international. La Banque centrale européenne, BCE, a relevé ses taux d'intérêt pour la 10e fois d'affilée en 14 mois. Ainsi, le taux de dépôt est porté à 4%, un niveau jamais atteint depuis le lancement de la monnaie unique en 1999. Cette réaction de la BCE fait suite à la hausse des prix observée en Europe depuis 2021 et correspond à son objectif de lutte contre l'inflation, conformément à son mandat de maintenir la stabilité des prix. Lorsque les prix augmentent trop rapidement et donc que l'inflation est trop élevée, une hausse des taux d'intérêt permet de ramener l'inflation à son objectif de 2% à moyen terme. Christine Lagarde, présidente de la BCE, a annoncé que ces taux seraient révisés à la hausse dans les mois à venir tant que l'inflation ne sera pas contrôlée. L'inflation est nettement supérieure à l'objectif de 2%, alimentée par des chocs d'offres liés d'une part à la pandémie et à la désorganisation des chaînes de valeur qui s'en est suivie, et aux tensions géopolitiques d'autre part. Les entreprises ont du mal à satisfaire la demande du fait de difficultés d'approvisionnement en matières premières, d'une énergie devenue plus chère, de transports plus coûteux et de tensions sur le marché du travail liées à une évolution démographique défavorable et à des pénuries sectorielles. Une politique monétaire non dénuée de risques pour l'économie. Si cette politique monétaire plus restrictive a pour objectif d'infléchir la hausse des prix, elle n'est pas sans risque pour nos économies, surtout dans le contexte actuel. D'abord, il est très probable que l'inflation perdure. Les difficultés d'approvisionnement vont peiner à se résorber dans une situation où l'énergie est plus chère et où les tensions géopolitiques s'accroissent, rendant les transports plus coûteux, alors que les pays cherchent à relocaliser une partie de leur chaîne de valeur. Sans oublier la transition écologique et l'objectif de décarbonation qui impacte fortement les changements productifs et les relocalisations et vont augmenter les coûts de production. Ensuite, pour atténuer le choc inflationniste, nombre de pays européens ont vu leurs déficits et leurs dettes publiques exploser en raison des politiques budgétaires généreuses de soutien à l'activité des entreprises et au pouvoir d'achat. La hausse des taux d'intérêt risque alors d'obliger les pays à renoncer à certains investissements indispensables. Éducation, transition énergétique, transition numérique, réindustrialisation, santé, ce qui serait catastrophique pour l'avenir. Enfin, une telle politique monétaire restrictive n'est pas sans conséquences sur l'activité économique, entraînant un recul de l'investissement des entreprises et de l'investissement immobilier. Par le passé, on a déjà connu des situations où la hausse des taux a déclenché une crise immobilière prenant la forme d'un recul de la construction avec au final un ralentissement de l'activité globale. De ce point de vue, en un an en France, les ventes de logements ont dégringolé, surtout dans le neuf, du fait des difficultés d'accès au crédit pour les acheteurs. Augmenter la cible d'inflation de 2 à 3%. Existe-t-il des alternatives à cette politique monétaire restrictive?
Une première solution serait de modérer la réaction des banques centrales en augmentant la cible d'inflation de 2% à 3%. Augmenter d'un point la cible inflationniste ne devrait pas miner pour autant la crédibilité de la politique monétaire. En effet, il faut rappeler que cette cible n'apparaît pas explicitement dans les différents textes régissant le fonctionnement des instruments de la politique monétaire. En outre, par le passé, les banques centrales ont utilisé une politique monétaire non conventionnelle, assouplissement quantitatif, sans que cela n'affecte leur crédibilité. Ainsi, en relâchant cette contrainte, les hausses de taux d'intérêt seraient moins élevées et l'investissement moins pénalisé. Une seconde solution consisterait à investir massivement dans des politiques d'éducation et de formation professionnelle plus efficaces pour stimuler l'accumulation de capital humain, répondre aux pénuries sectorielles ainsi qu'aux défis démographiques, climatiques et numériques, et augmenter ainsi le taux d'emploi. Finalement, on accroît les capacités de production et finalement, on fait baisser l'inflation. En France, l'inflation s'est maintenue à 4,9% en septembre. L'augmentation des prix sur un an frôle les 5% pour le deuxième mois consécutif, d'après les données de l'INSEE. L'INSEE confirme sa première estimation. Selon l'organisme, l'indice des prix à la consommation s'est établi à 4,9% sur un an en septembre. Le ralentissement des prix de l'alimentation ayant contrebalancé la forte accélération de ceux de l'énergie. Le taux d'inflation est identique à celui de 4,9% enregistré en août, mais qui avait été marqué par un sursaut après une hausse des prix de 4,3% sur un an en juillet. En septembre, les prix de l'énergie ont augmenté de 11,9% sur un an, après 6,8% en août, en raison du net rebond des produits pétroliers, a détaillé l'Institut national de la statistique. Toujours en hausse, les prix de l'électricité ralentissent un peu, plus 16,1% après plus 18%, tandis que le gaz a augmenté au même rythme, plus 7,6%. À l'inverse, les prix de l'alimentation, qui étaient devenus le principal moteur de l'inflation, ont continué à ralentir pour le sixième mois consécutif. Ils ont progressé de 9,7% sur un an en septembre contre 11,2% en août. Le repli est plus marqué pour les produits frais. Sur un mois, ils se sont même repliés de 0,3%, une première depuis octobre 2021. Selon l'Institut statistique, les prix des services comme les loyers, les services de communication ou la restauration, plus 2,9% sur un an en septembre après plus 3%, ainsi que ceux des produits manufacturés tels que les gros appareils ménagers ou les livres, plus 2,9% après plus 3,1%, ont également ralenti. Les prix énergétiques représentent toutefois moins de 10% du panier de consommation pris en compte par l'INSEE pour le calcul de l'indice des prix à la consommation, là où l'alimentation pèse environ 16% et les services, hébergement et transport notamment, plus de la moitié. L'indice des prix à la consommation harmonisé, IPCH, utilisé pour des comparaisons à l'échelle européenne, a été révisé en hausse de 0,1 point à 5,7% sur un an en septembre, comme le mois précédent.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.